théologie par le père Marie-Dominique Philippe, le 5 novembre 1994, à Rimont, le Christ rédempteur, quatrième conférence.
Je réponds tout de suite à cette question. Est-ce que la nature humaine du Christ subsiste dans sa gloire?
Oui.
C'est bien évident. Quand Dieu prend quelque chose dans sa stricte intimité personnelle, il ne le détruit pas, mais il en oublie. La nature humaine du Christ demeure dans la gloire. Une nature humaine la plus parfaite qui soit. Voyez le vœu de Platon. La nature en soi, la nature humaine en soi, est parfaitement réalisée dans le mystère de Jésus. Et ceci explique, voyez, ces deux positions qu'il faut jamais oublier quand on parle des rapports entre le point de vue de l'incarnation et de la rédemption. Vous savez qu'il y a deux positions. Il y a la position de ceux qui disent que Dieu se serait incarné même s'il n'y avait pas eu de péché. Et puis l'autre position, Dieu s'est incarné en vue de la rédemption. Oui. Alors, ça, au point de vue théologique, c'est très important parce que ça relève deux spiritualités tout à fait différentes. Je reprends pour que vous voyez bien. On vous en a peut-être dit un mot déjà hier, je présume. Alors, je n'insiste pas trop, mais je crois que c'est très très important de se rappeler ça. Thomas d'Aquin dit ceci. Puisque ceci relève uniquement du bon plaisir de Dieu, le mystère de l'incarnation, on ne peut le préciser qu'à partir de la révélation. Or, la révélation nous révèle le mystère de l'incarnation, toujours en vue de la rédemption. Et saint Thomas ajoute, l'autre position reste possible. Mais saint Thomas précise que, au fond, la théologie n'est pas la théologie des possibles. De sorte que ce n'est plus une position théologique. En réalité, il n'y a qu'une seule position vraiment théologique, c'est à partir de l'Écriture. Si le théologien réfléchit, c'est toujours pour revenir à l'Écriture. La foi est plus que les conclusions théologiques. Les conclusions théologiques sont au service de la foi, pour pénétrer plus avant, pour mieux voir toute la richesse du mystère de la foi. Il ne faut jamais oublier ça. C'est pour ça que le théologien est au service des croyants. Il doit pouvoir les aider à aller plus loin dans leur foi. Et tout ce qui ne sert pas une pénétration plus grande de la foi doit être écarté. Parce que très vite, ça devient des considérations idéologiques, des considérations de possible qui n'ont rien à voir avec la foi. Ça, c'est très très important. J'allais dire, c'est l'hygiène fondamentale du théologien. Un théologien qui spécule pour le plaisir de spéculer, c'est plus un théologien. Un théologien revient tout le temps à l'Écriture. Il doit avoir un très très grand amour de l'Écriture. Puisque c'est l'enseignement direct de Dieu, la révélation, en se servant d'instruments humains pour être tout proche de nous. Seconde question. Ce qui est sûr, c'est que tout acte de charité demeure éternellement. Alors que nos actes de péché, nos péchés, ne demeurent pas éternellement, grâce à Dieu. Donc toutes les nostalgies que nous pouvons porter sur la terre, qui restent ces nostalgies imaginatives, seront purifiées complètement lorsque nous vivrons la vision béatifique. Alors que tous les actes de charité que nous faisons, écouter un cours de théologie, hein, c'est un acte de charité. Faire une session théologique, hein, c'est un acte de charité. Ça demeure éternellement. Dans le ciel, nous ferons de la théologie. Je sais pas comment. Hein. Je sais pas comment, mais on en fera. Ce que les théologiens parlent de in-verbum et extra-verbum. In-verbum et extra-verbum montrent bien la vision béatifique. On sera pris dans le silence éternel de l'amour de Dieu. Et extra-verbum, c'est justement notre humanité qui gardera contact avec nos frères, avec ceux, nos frères, les anges, les archanges, les chérubins, des conversations très chérubines et merveilleuses, et puis nos frères.
Apparaît aux apôtres,
il adapte sa gloire à la sensibilité des apôtres, à la sensibilité biologique de l'œil. L'éclat du Christ et du corps glorieux du Christ est quelque chose qui nous dépasse complètement. Et notre œil ne pourrait pas le supporter. Notre œil tel qu'il est constitué ici, hein, sur notre conditionnement, notre corps glorieux sera au contraire parfaitement adapté à contempler le corps glorieux du Christ. Et ce sera le plus beau des spectacles que vous pourrez voir. Ce que vous voyez sur la terre, des choses merveilleuses qu'on voit sur la terre et qu'on garde. Le mont Everest, c'est beau. C'est sûr. Le mont Blanc, c'est très bourgeois à côté. Hein. Le mont Everest, c'est quelque chose. Mais c'est rien. La mer sauvage, pour un Breton, la côte sauvage, c'est quelque chose. Finistère, c'est quelque chose. Tout ça n'est rien à côté du corps glorieux du Christ. Et le corps glorieux du Christ, nous le verrons éternellement. Et le corps glorieux du Christ, nous le verrons dans la gloire. Soir. toujours enseigné que la contemplation et l'adoration, c'était plus grand qu'enseigner. Alors maintenant, vous devriez être dans la joie de pouvoir le réaliser. Alors le Père Garagou a répondu, oui, je l'ai enseigné, mais le faire, ce n'est pas la même chose. Il faut toujours se rappeler ça. Jésus a terminé sa vie. trop, c'est le mystère de la messe, c'est le mystère de l'Eucharistie. C'est cet acte que Jésus a vécu sur la croix, qui nous est donné réellement pour nous, chaque fois que nous assistons à la messe, et que nous est donné de cette manière cachée, voilée, d'une manière symbolique, la double consécration du pain et du vin qui exprime l'offrande de sa vie. Tout à fait personnel et individuel, la mendication.